consciente ou inconsciente. Et notre prophète, puisqu'il nous aime bien, sallallahu alayhi wa sallam, pense à nous et veut que nous sauvions notre peau. Et il nous a enseigné des formules que nous devons prononcer pour justement effacer ces péchés. Alors c'est quoi cette formule magique qui efface nos péchés? C'est quoi? Alhamdulillah? Non. Alaykoum salam. Alors qui connaît la formule qu'il est bien de prononcer après avoir mangé? Mais la récompense, c'est que les péchés sont effacés. Qui la connaît? Oui? Non. Non, c'est pas ça. Frère, il a dit Alhamdulillah, il a dit Ta'amana, wa saqana, wa ja'alana minal muslimin. C'est pas ça. Elle est un sandwich, celui qui trouve. Non? Bien, vous avez votre dose de sandwich? Vous allez trouver une mosquée comme la mosquée de Sabatier. Tu rentres, c'est gratuit, non? Tu bois, tu manges, tu salues des personnes, tu discutes, tu passes du temps, les enfants s'amusent. Et tout ça, alhamdoulilah, dans une ambiance saine où le musulman, il marie l'utile à l'agréable. C'est malheureux que la majorité de nos mosquées en France ne suivent pas les pas de cette mosquée. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens dans les mosquées si les mosquées étaient ouvertes et proposaient des activités humaines qui ont une dimension humaine, une dimension de bonté. Mais malheureusement, c'est dû au fait que les dirigeants, les responsables des mosquées n'ont pas compris l'islam sous cet angle, l'angle de l'humanisme. On a beaucoup de dirigeants de mosquées qui sont des rigoristes, des littéralistes qui, subhanallah, mettent en avant la lettre et oublient l'esprit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié où? Dans la mosquée. Il a organisé la réception, la fête, son mariage ou ça dans... C'est beau ou c'est pas beau? Et son mariage, il a célébré dans la mosquée. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il était assis dans la mosquée, sa femme était assise. Où ça? Oui. Comment tu le sais? C'est bien. Vous vous rendez compte? La mosquée remplie de monde, ses invités sont nourris et le prophète alayhi salam est assis avec son épouse, Safia. Vous voyez comment il était ouvert d'esprit et comment la mosquée était vivante, accueillante, agréable. Donc qu'est-ce qu'il faut dire après avoir mangé pour que Dieu nous efface nos péchés? Personne ne sait, je vais le dire. Si? Tfaddal? Non, dis, tente. C'est rien, si t'es pas sûr, on va... Non. T'arrives en retard, il avait déjà dit. Ouais. C'est rien. Si vous ne le savez pas, c'est pas la fin du monde. Quoique quand même, ça nous évite quelque chose de magnifique, d'expiation de nos péchés. Le problème, c'est pas de ne pas savoir. Le problème, c'est de ne pas chercher à savoir ou de ne pas faire des efforts pour apprendre et savoir. Parce que tout le monde n'est pas né savant. Et personne ne peut prétendre tout connaître et tout savoir. Donc ça, ce n'est pas une tare, un défaut en soi. C'est humain, c'est naturel. Le danger, c'est quoi? C'est de ne pas avoir l'envie d'apprendre et de savoir. C'est pour ça, si vous voulez un conseil, Allah ibarak fikoum, procurez-vous un livre qui s'appelle « Le rappel et l'évocation de Dieu » de l'imam Ibn Kathir. Non, de l'imam al-Nawawi. Le grand imam Abu Yahya, Al-Nawawi, qui a écrit Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Azkar, le livre des évocations et des invocations, le livre des formules que le croyant est tenu de prononcer à des moments particuliers, des endroits, et les récompenses qu'il en court. C'est un gros volume. Il est traduit en français. Vous avez une page en arabe, une en français. Et ce livre est complet. Il renferme toutes les doas, toutes les invocations. Donc c'est un livre de chevet qu'il faut avoir avec soi en permanence. Et de temps en temps, vous extirpez, vous tirez de ce livre une invocation, vous la prenez. Même si ça vous prend une semaine, c'est rien, 15 jours. Allez, je vais être gentil avec vous, même si ça te prend un mois. Une fois que tu la connais, tu la connais, c'est tout. C'est une affaire classée. En un an, tu en connais 12. En 10 ans, tu en auras appris combien ? 120, ben tu as fait le tour. Tu te rends compte ? 120 du'as du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après 10 ans de pratique religieuse. Mais ces 10 ans de pratique religieuse passent sans que tu n'aies pas appris des invocations basiques, sache que ta pratique est mauvaise ? Non. Incomplète ? Non. Elle est, comme dit le hadith du prophète, alayhi salam, khidaj. Elle a un handicap. Ouais. L'handicap, c'est quoi ? C'est le fait d'ignorer un pilier de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, son épouse, radiallahu anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Dieu à tout moment. Allez, non-stop, sans arrêt, il évoquait Dieu. Il boit, après avoir bu, il dit Alhamdulillah, alladhi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi zunubina. Il veut dormir. Bismikallahumma amutu wa ahya. Il se réveille. Bref, à chaque instant, chaque moment de la vie, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam prononçait une formule de remerciement, de pardon, de glorification. Et ça s'apprend, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Et Dieu dit dans le Coran, Wazkurullaha kathiran. Évoquez Dieu énormément. La prière, il t'a dit combien ? 5. T'en rajoutes, tant mieux pour toi. Mais la prière est limitée. Le jeûne, il t'a dit 30, 29. Tous les actes d'adoration sont limités en quantité, sauf un. Il est illimité. Dieu ne nous a pas dit de l'évoquer une heure par jour. Il nous a dit le plus possible. C'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 10 heures. Ouais. Tu marches, tu dis Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Tu vois ? Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Tu le dis 100 fois, 1000 fois par jour, en conduisant ta voiture. Ouais. Ou en travaillant. C'est rien si tu n'es pas concentré. Il vaut mieux occuper sa langue à prononcer des belles paroles qu'à la laisser au repos. N'ayez crainte, elle ne se fatigue pas la langue. Hein. C'est le seul muscle du corps qui ne se fatigue pas. Vous n'avez pas remarqué ? Non ? Il ne se fatigue pas. Et c'est à cause de cette langue que les gens sont jetés en enfer la tête là. La première. Vous entendez ? Et la majorité des gens iront en enfer à cause des péchés faits avec la langue. Donc, autant l'occuper, cette langue, à prononcer des paroles utiles. Donc, l'invocation qu'il faut dire après avoir mangé pour que Dieu nous efface les péchés que nous avons faits dans la journée, avant le repas, c'est « Alhamdulillah allazi at'amani hada wa razaqanihi » Min ghayri hawlin minni wa la quwwatin. Louange à Dieu qui m'a offert ce repas sans effort de ma part, tout simplement. Et c'est vrai, vous avez fait un effort pour manger ? Il est tombé du ciel le repas, non ? Non, il est le fruit, alhamdulillah, de la générosité, de l'hospitalité de qui ? Des responsables de cette mosquée qui ont décidé aujourd'hui de nous inviter et de nous offrir un repas. C'est beau ou c'est pas beau, franchement ? Non ? Vous savez qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn Amr ibn al-As? Il a dit, je préfère nourrir mon frère, lui offrir un repas, je préfère inviter quelqu'un et lui donner à manger que de libérer 40 esclaves. Vous avez entendu? Non? Je répète. Abdullah ibn Amr ibn al-As dit, je préfère inviter mon frère, lui offrir un repas dans la gaieté, la joie, le bonheur, c'est ça? Que de libérer 40 esclaves. Pourquoi? Il a dit parce que ça rapproche les cœurs. C'est ça? Ça développe les liens de fraternité. Et c'est vrai, si dans la mosquée, il n'y a pas justement cette ambiance d'hospitalité, de générosité, de convivialité, comment voulez-vous qu'on soit des musulmans qui nous connaissons et qui nous aimons? D'accord? On entre dans le vif du sujet. Vous le connaissez le sujet? Vous a été transmis? C'est ça? La Coupe du Monde, 2010. Non, c'est pas ça? Il y a une erreur? Ah non, c'est le sujet discussion de malheureusement la majorité des musulmans d'aujourd'hui. Non? Pas des musulmans, des êtres humains. Et subhanallah, c'est Marx qui avait dit que la religion c'est l'opium des peuples. C'est lui, Marx. Si vous le ressuscitez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire, Marx? Le foot, c'est l'opium des... Non, Marx, il ne dira pas ça. Ouais. Mais nous le disons. Le foot, c'est pas un sport. C'est une drogue qui a pour objectif de maintenir les gens dans le coma. Pas le sommeil. Sommeil, tu te réveilles. Là, c'est un coma profond, mon frère. Ouais. Qui peut prendre la personne dès l'âge de 12 ans jusqu'à 90 ans. Ouais. Parce qu'après la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Europe. Entre deux, il y a la Coupe d'Afrique. La Coupe des Champions. La Coupe... Tiens, Davis aussi, le tennis. Waouh, c'est vrai, je l'ai oublié celui-là. Donc, ce qu'ils appellent le sport, et en fait, ce n'est pas du sport. C'est vraiment une drogue qui détourne les gens de l'essentiel. La preuve. La preuve, elle est toute simple. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur ce jeu? Là, c'est une question de business, vous êtes bien d'accord. C'est de l'argent. Il y en a qui se font des millions et des milliards. Ça, c'est une des raisons. Mais il y a une autre raison. Jadis, les tyrans et les dictateurs qui dirigeaient le monde avaient compris cela. Rome, vous connaissez Rome, l'Empire romain? Du pain et des jeux. Non, on rajoute, du pain, du vin et des jeux. C'est ça? Heineken. Ouais. La Jeanlin. C'est vrai, tu vois les jeunes maintenant, ils se baladent avec des packs. Ils vont plus dans les cafés parce que ça coûte plus cher. Autant l'acheter à Lidl, la bière. Ouais, 12 capsules à combien? À 3 euros. Ouais. C'est moins cher que l'eau. Non, vous n'avez pas remarqué? Et ça fait plus de dégâts. Mais ça marche, subhanallah. Ils sont assis et ils boivent. Et ils parlent du foot. Ou ils parlent des salaires des joueurs de foot. Et alors qu'ils sont dans la dèche, ils n'ont rien. C'est une catastrophe. Wallah, c'est une catastrophe. C'est pour cela, il n'y a pas mieux pour diriger un peuple si ce n'est que de l'endormir. De l'endormir avec quoi? Avec les jeux et avec le pain. La preuve, hier... Non, c'était pas hier, si? Non, pas hier. Jeudi. C'était quand la manif pour les retraites? C'était jeudi. Ouais. Donc une manif nationale, c'est ça? Ouais. Au sujet des retraites. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez travaillé jusqu'à 70 ans. D'accord? Et malheureusement, les gens, ils sont devant l'écran. C'est ça? Ils regardent le foot. Alors que les joueurs de foot, ils ne dépassent pas 30 ans, eux. Hein. Ils n'ont pas de problème de retraite. À 30 ans, ils prennent leur retraite. et ils n'ont pas besoin d'investir puisque ce qu'ils ont gagné est suffisant pour 10 générations. Et que nous, qui ne savons pas ce que l'avenir nous réserve dans le domaine des retraites, au lieu de faire pression sur les hommes politiques pour apporter des solutions un peu plus créatives, d'accord, qui arrangent plus les petits, les gens sont occupés à regarder le foot, à soutenir des gens qui n'ont aucune pensée pour eux, au lieu d'assumer leurs devoirs sociaux et politiques. Le foot est une catastrophe. Il y a le premier match France-Uruguay, c'était ça ? Premier match que la France a joué. C'était un vendredi, ça remonte à 3 semaines. Il y avait une conférence à Douai, dans la salle municipale de Douai, avec Tariq Ramadan, Hafidahullah, et une députée européenne. C'était sur la Palestine, comment défendre la Palestine et comment casser le blocus injuste sur Gaza. Cette salle, 6 mois avant, elle avait été à nouveau réservée pour que Tariq Ramadan intervienne et fasse une conférence. Les organisateurs ont dû refouler les gens. Ils ont dû fermer la salle tellement elle était remplie et renvoyer chez eux des gens qui sont venus pour assister à la conférence. Il y avait plus de 600 personnes, alors que la salle, je crois que sa capacité, c'était 400. Cette fois, grâce à France-Uruguay, ouais, grâce au foot, ouais, il y avait 170 personnes. La salle était vide. Comment vous expliquez ça ? Vous expliquez que malheureusement, pour les 2/3 des musulmans, ouais, la Palestine ne vaut pas un ballon de foot, ne vaut pas un match de foot. C'est même pas un match de finale. À la rigueur, la finale de la Coupe du Monde, je veux bien. Tu fais pas ta prière, tu kfor. Ouais, c'est une finale quand même. Non, attends. Oui. On est tombé dans le piège. Ouais. On est tombé dans le piège. Alec, pourquoi est-ce qu'on parle de foot ? Si on parle de foot, c'est qu'on est tombé dans le piège. Sahih. Malken, c'est parce que toi, alhamdoulilah, ça se voit que tu es un homme sage, vacciné. Non, mais ça se voit, Allah Ibarfik, ta remarque exprime justement cette sagesse, cette intelligence. Malken, tu n'es pas la référence. Et ton cas n'est pas... Ouais, c'est pour ça que je te le dis. Je n'ai pas dit que tu le prétendais, mais ton cas n'est pas une généralité. Si ton cas était une généralité, wallah, je serais le plus heureux des conférenciers et j'en parlerai plus. Walakin, la réalité, c'est ça, mon frère. C'est ça, c'est la conférence. Il n'y a pas de foot, la salle, elle est pleine. Il y a un match de foot, la salle, elle est vide. Donc ça veut dire quoi ? C'est dire que les musulmans sont atteints du cancer de notre société, la distraction. Donc le rappel est nécessaire. Il n'est peut-être pas utile pour tout le monde, puisqu'il y en a, alhamdoulilah, ils sont vaccinés. Mais on n'est pas à l'abri. Ouais. Vous êtes là, alhamdoulilah, Allah ibarak. Mais au moins, essayez de retenir, d'apprendre et de transmettre à ceux qui ne sont pas là. Puis il y a un truc qui enregistre aussi pour transmettre à ceux qui sont absents. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, à la rigueur, une finale de Coupe du Monde, je veux bien. Ouais, tu renies Dieu, le prophète et tout ça. Mais le premier match, ouais, tu oublies quoi ? Tu oublies la Palestine, tu oublies... C'est une catastrophe. Wallah al-Adim, c'est une catastrophe. En pleine période de bac, ouais, au lieu de s'adonner à des révisions, au lieu de se reposer psychologiquement et mentalement, nos jeunes sont sous tension, ils sont en état de conflit. Et la pire des choses dans ce foot, c'est que ça réveille, ou ça crée, ça développe. Malheureusement, chez les musulmans, le racisme, c'est ça ? Le nationalisme, ouais ? Le pseudo-patriotisme, un faux patriotisme. Et quand je vois des jeunes musulmans qui portent des maillots aux couleurs de tel et tel pays, à l'effigie de telle et telle équipe, ça me fait mal au cœur. Vous entendez ? Pour deux raisons. Un, ça prouve que le mec, il n'est pas français, il n'est toujours pas intégré. D'accord ? Allez, des citoyens à moitié, quand ça les arrange. Et deuxièmement, ça prouve que peut-être que la maladie qui existe chez nos parents, hein, le racisme, la xénophobie, le nationalisme, le rejet de l'autre, peut-être que ça se transmet. Hein, c'est un virus. Ouais. Et je le vois, moi, des jeunes qui parlent entre eux, ouais, et qui s'insultent. L'un se moque de l'autre. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait de ça que je parle. Moi, je te parle des jeunes qui sont nés, qui ont grandi en France, de la deuxième, voire la troisième génération. Et qui, leur discussion tourne autour de quoi ? Autour de nous, nous sommes les meilleurs. Nous, moi, on a été qualifiés. Ouais. Vous, vous n'avez pas été qualifiés. Ouais, mais vous, vous avez fait ça, et nous, la dernière Coupe du Monde, on avait fait ça. Vous comprenez ? Allez, nous, on est meilleurs que vous. Vous avez vu ? Le niveau intellectuel, vous avez vu la bassesse intellectuelle ? Au lieu de parler en tant que Français, citoyen français, en tant que musulman, on s'enferme dans des... Tfaddal. Oui.
C'est un des premiers, le premier. Le deuxième, c'est de séparer les musulmans entre eux. Moi, je suis algérien, lui est marocain, lui est iranien, lui est égyptien. On a des équipes pour défendre, on a des couleurs pour défendre. On est séparés, en fait. Et moi, c'est pour ça, en fait, qui rentre avec le coup.
C'est une catastrophe, tu as raison. On l'a vu ce que ça a donné avec le fameux match Algérie-Égypte. Vous avez vu la haine ? Ils ont sorti les armes, les chars. Alors qu'ils n'ont jamais cherché à les sortir contre eux, des ennemis flagrants. Mais là, ils sont prêts à se faire la guerre entre eux pour un ballon de foot. Ça prouve que le cancer du tribalisme, ouais, du nationalisme exacerbé, il est toujours présent. Et il faut le combattre. Et la meilleure façon de le combattre, c'est comme a dit le frère, c'est de boycotter le foot et de ne pas en parler. Ouais. Et si on doit en parler, c'est pour le casser. Parce que ce n'est pas du sport. Du sport, c'est quand tu mets tes baskets et ton jean et tu prends ta femme et tes enfants et tu sors et tu fais du sport en famille. Ou avec tes frères, ou avec tes amis. Ou tu t'inscris dans un club et toutes les semaines, tu fais 2-3 heures de sport pour entretenir ta santé, ton état physique. Ça, c'est du sport. Mais s'asseoir dans ton fauteuil, vociférer, hurler, c'est ça ? Insulter, avoir les nerfs, oublier Dieu et son prophète et la prière, ça, c'est pas du sport. Ça, c'est de la possession. Ouais. Le mec est possédé par un djinn qui s'appelle le ballon. Et il faut le soigner, mon frère. Il faut le ramener à un imam, effectivement. Ouais. Mais je crois que le Coran est impuissant. T'as beau lui réciter autant de versets que tu veux, c'est incroyable. Allah al-Adim, c'est incroyable. Khair, parenthèse fermée, le thème qu'on devait aborder ce soir, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est suffisant. Il vaut mieux peu que beaucoup qu'on oublie. C'est le mois de Ramadan et l'été, les vacances. Vous avez remarqué, hein, comment le Ramadan tourne, se déplace. Et ça, c'est une miséricorde de Dieu. D'accord ? Pour que certains le vivent en hiver, d'autres en été. On va goûter à toutes les saisons. On va goûter à la simplicité, à la difficulté. Vous entendez ? On va goûter à la dérogation et on va goûter à la rigueur. Et c'est comme ça que doivent être les musulmans. Ils doivent s'adapter à toutes les situations. Vous entendez ? Si tout est toujours facile, tu es un musulman fragile et fragilisé. C'est pour ça que Dieu veut que nous vivions parfois dans des circonstances qui sont dures et difficiles pour nous renforcer. Et c'est la philosophie de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui dit « Ikhshaw shino, fa inna ni'ama la tadoum. » Soyez rude, austère, vous entendez ? Il ne faut pas toujours vivre dans l'abondance et le luxe. Vous allez devenir des musulmans très fragiles, incapables de vous acclimater, habituer aux situations de risque, aux situations difficiles. D'accord ? Imaginez-vous demain, il y a une guerre, on fait quoi ? Hein ? On entend un bruit, on se sauve, on a peur. On n'a pas eu son petit déjeuner, on pleure. Hein ? Donc l'objectif du Ramadan, c'est aussi de nous rendre dur, costaud, fort, courageux, patient. Et pour ça, il est le bienvenu en été. Marhaban bihi. Quoi qu'on devrait quand même faire pression sur nos hommes politiques pour qu'ils arrêtent de jouer avec l'horloge. Parce que c'est une catastrophe cet horaire d'été, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est, biologiquement parlant, c'est une catastrophe. Regardez, 10 heures, on dort toujours pas. Non ? Alors que normalement, il devrait déjà faire noir et on dort. Donc c'est une catastrophe, mais que voulez-vous ? Le fric passe en vent l'être humain. Parce qu'il paraît que c'est une question d'argent. Comme ça, ils font des économies d'électricité, puisque hein, le soleil, à nos yeux, se couche plus tard. Donc ils ouvrent plus tard les lumières dans les rues, on consomme moins. Je ne sais pas, à mon avis, c'est le contraire. On dépense plus. Peut-être que l'État, les collectivités locales font des économies sur l'électricité, mais l'individu, il dépense plus, il consomme plus puisqu'il vit plus longtemps le jour. C'est-à-dire qu'il dort moins. Ouais. Et si on dormait à 8 heures, bon, on n'aurait pas mangé entre 8 heures et 10 heures. Ouais, on n'aurait pas regardé la télé, on n'aurait pas envoyé des SMS, on n'aurait pas eu de coup de fil. Vous êtes d'accord ? Donc le fait de retarder ce sommeil, ça nous pousse à quoi ? À la consommation, à l'activité. Et quelque part, c'est l'objectif de la société de consommation, c'est pousser l'individu à dépenser, à consommer. Il faut le maintenir en vie, éveiller le plus longtemps possible pour qu'il soit un bon consommateur. Donc, la problématique, c'est quoi ? C'est la prière. Hein ? On va rencontrer ce problème, peut-être pas cette année, mais c'est sûr l'année prochaine, et encore plus dans 3 ans. C'est l'Aïcha, le Maghreb à 10h, l'Aïcha à minuit. C'est ça ? On fait comment ? On fait comment ? Puisque le Ramadan, il fait quand même pour prier un peu la nuit. On va faire l'Aïcha à minuit, on va sortir de la mosquée, il va être combien ? Minuit et demi ? 1h moins quart, on va rentrer chez nous. Le temps de dormir, il est 1h15. Il faut se réveiller à 3h parce que le fajr est à 3h30 pour manger un peu. On fait quoi la journée ? Nous qui travaillons. Le chômeur, il a de la chance. Non, il n'y a pas de chance d'être au chômage. Celui qui n'a pas d'activité professionnelle, il s'en sort plus ou moins bien dans ce domaine. Mais le bosseur, le chef d'entreprise, celui qui doit se réveiller à 6 heures pour aller travailler, il est dans la difficulté. Je ne sais pas ce que nos savants nous ont réservé comme dérogation. Je ne sais pas. J'ai du mal à concevoir la chose. Alors, Mustapha a trouvé la solution, il faut prendre les congés. Inch'Allah, c'est une très bonne solution. Si les musulmans arrivent à prendre leurs congés donc pendant le mois d'août, après ils décalent, je ne sais pas si on peut chevaucher, une partie en juillet, une partie en août, mais en tout cas, ils essaient de négocier ça avec leurs supérieurs hiérarchiques pour prendre des congés pendant le Ramadan. Et à la rigueur, s'ils ne prennent pas les 4 semaines, au moins qu'ils prennent 2 semaines. Ils souffrent les 2 premières semaines, ils se reposent les 2 semaines suivantes. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions. Ou bien on fait le Maghreb avec l'Aïcha, ouais, on mange et on dort, et on se réveille avant le Fajr, on boit un verre de lait, un verre d'eau, et ensuite on fait quelques prières. Parce que vous savez que Tarawih, c'est une sunna, vous m'entendez ? Deuxièmement, ce n'est pas une obligation de les faire à la mosquée, au contraire. C'est même recommandé de les faire à la maison. Donc peut-être que ce sera la solution. C'est de prier le Maghrib et l'Aïcha, à la rigueur à la mosquée. On rentre chez nous, on mange. On fait 2-4 rak'at, on dort. On en refait 2-4 avant le Fajr. Ça nous aura permis de dormir au moins 4 heures d'affilée. Mais si on doit aller à la mosquée, faire l'Aïcha à la mosquée, faire Tarawih à la mosquée, c'est du domaine de l'insupportable et de l'impossible pour la plupart des gens qui ont des activités. D'accord ? Ensuite, donc les vacances sont souvent synonymes de quoi ? De relâchement. Pour les musulmans, dans le domaine de la pratique religieuse. Et généralement, quand on parle de vacances, c'est quoi ? C'est on va quelque part et les gens aiment bien... Attention, c'est normal et c'est naturel, mais les gens aiment bien aller au bord de la mer, c'est ça ? Donc la mixité, le mélange, Donc je pense que les musulmans vont se priver de ça, non, pendant le ramadan. Ok, donc vous allez aller à la montagne. Non, le problème, c'est que même à la montagne, vous pouvez être agressé là-bas par des... Donc en vérité, je pense que nos vacances pendant le ramadan vont être des vacances spéciales. Tiens, si on allait à la Mecque, ce que vous en pensez? Si on allait faire le ramadan à la Mecque, à Médine, ouais. C'est possible, non? C'est halal. On est prêt à dépenser, je ne sais pas, 2-3 000 euros pour aller au bled. Et peut-être pour la même somme, on peut aller à Médine pendant 15 jours, 3 semaines, et t'es nourri à l'œil là-bas. Hein. T'as pas besoin de dépenser pour manger. C'est juste tu paies l'hôtel et la nourriture, ils te l'offrent. Ouais. Ça vaut le coup quand même, non? Vous ne trouvez pas? Ça, c'est un bon ramadan. Bon, on ne va pas le faire pendant 6 ans. Tiens, pourquoi pas? Chacun selon ses moyens. Mais ce sont des bonnes vacances. Hein. On fait d'une pierre deux coups. Okay, l'utile à l'agréable. Sinon, il est hors de question pendant le ramadan, en période estivale de vacances, ben déconner, faire des péchés. On est bien d'accord, c'est pas compatible. Ouais. Donc Allah ybarak fikoum, vous êtes parti pour 6 ans sans la plage, d'accord, sans toute distraction, où vous avez des malchances de faire des péchés. En vérité, ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Hein. Normalement, ce n'est pas 6 ans, c'est les 60 ans qui vous restent à vivre. Ouais. Il y a des endroits où le musulman ne doit pas aller. Mais si tu y vas en dehors du ramadan, c'est pas bien. Mais si tu y vas pendant le ramadan, c'est doublement pas bien. Comprenez ? Désobéir à Dieu pendant le ramadan, c'est encore plus grave que lui désobéir en dehors du ramadan. Mais c'est quand même le top que le ramadan tombe pendant les vacances. Parce qu'on ne travaille pas, admettons, on prend ses congés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses. On est disponible 24 heures sur 24. Pourquoi ? Pour faire un stage. D'accord ? Ça peut être un stage de Coran. Surtout qu'il y a encore parmi nous beaucoup de musulmans et de musulmanes qui ne savent pas lire le Coran. Ouais. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Très bien. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le Ramadan a été révélé durant le Coran a été révélé. La révélation du Coran a commencé pendant le Ramadan. Voilà, pour être exact et précis. Donc, c'est une aubaine et une occasion durant nos congés ramadaniques de quoi ? De se fixer un objectif, par exemple cette année. Le Ramadan commence quand ? Le 20 août. Ouais, si tu as pris tes congés du 20 au 20 septembre, le 10, oh là là, c'était l'année dernière le 20. Vous êtes sûr ? C'est le 10. Très bien. Donc si le ramadan commence le 10 et vous avez pris vos congés du 10 au 10, moi ce que je vous propose, si vous ne partez pas à l'étranger, d'ailleurs vous pouvez aller au bled parce qu'au bled, les jours sont égaux aux nuits. Égaux, c'est ça ? Ouais, le coucher du soleil là-bas, il est à 19h. Donc c'est correct. Mais si vous restez en France, je vous recommande un projet qui est cette année du 10 au 10, vous l'appelez spécial Coran. Vous cherchez quelqu'un qui maîtrise le Coran et vous prenez des cours avec lui, minimum 4 heures par jour. Pendant un mois. Vous êtes sérieux, entre l'Asr et le Maghrib, vous avez 4 heures, vous les répartissez la journée, et vous vous mettez à la lecture du Coran. Vous apprenez à lire le Coran, en un mois, vous devenez un super lecteur. Abdel Bast Abd Samad. C'est possible, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est de la volonté, c'est un projet. Si il te tient à cœur, tu peux atteindre ton objectif. S'il ne te tient pas à cœur, ben tant pis, ce ramadan va passer comme les autres ramadans, on ne fera pas la différence. Si, à part qu'on va avoir soif, on va traiter toute la journée, on va mettre dans le congélateur, dans le frigidaire, toutes les boissons agréables, et on n'arrivera pas à les finir la nuit, et puis c'est tout. Non, il faut vraiment, parce que c'est l'été, on a du temps, on est disponible, profiter de notre disponibilité pour faire de ce ramadan, inshallah, durant les vacances, un ramadan de Coran, mais du vrai Coran. Si vous ne faites pas ça, les années, elles vont passer. Et vous n'aurez jamais le temps d'apprendre ou de lire, d'apprendre à lire le Coran. Et ce n'est pas logique et ce n'est pas normal que des musulmans qui savent lire et écrire, on a tous été scolarisés, donc on n'a pas de problème avec, la capacité d'assimiler et d'apprendre. Hein, celui qui a fait de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du latin, du grec, des langues mortes, s'il n'est pas capable d'apprendre à lire le Coran, d'apprendre l'arabe pour avoir la vie spirituelle, il faut qu'il se pose des questions sur sa sincérité, sa foi par rapport à Dieu. On est d'accord ? On se fixe ce projet ? Ouais. Vous prenez vos congés pendant le mois de Ramadan pour travailler pendant le mois de Ramadan, mais un autre boulot, un boulot différent, Inch'Allah, qui va nous propulser durant toute l'année. Admettons, la journée elle est longue, c'est la canicule, elle a déjà commencé, il fait 30 degrés, arrivé à 17h, vous ne tenez plus, vous faites quoi ? Tu fais quoi ? Tu sais pas ? Ah bah, t'as intérêt de le savoir, sinon tu peux finir au cimetière. Non ? Bah tu bois. Non ? Oui ? T'as peur, hein ? T'oses pas dire oui. Ils vont te lapider, Hadou, qui sont autour de toi. C'est un kafir, Hadat. Il a dit qu'on pouvait voir. Mais c'est évident, mon frère. Tu dois sauver ta peau. Ouais ? Ouais. Pendant le ramadan, si tu sens que ta vie est en danger, tu tiens plus, c'est impossible, que ce soit la soif ou la faim, ta religion te permet de rompre ton jeûne pour rester en vie. Tu veux une preuve ou non ? Une preuve quand même, hein ? T'en veux une ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage avec ses compagnons. Il faisait très chaud. Ils voyagent, ils sont fatigués, ils ont faim. Et il y a un attroupement. Et le prophète dit à ses compagnons : « Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tous ces gens qui sont là-bas ? » Il dit : « Prophète, c'est un tel, j'ai oublié son nom, hein, qui est tombé évanoui. Pourquoi ? Parce qu'il jeûne. » Vous entendez ? Il jeûne. Donc, tellement il avait faim, il avait soif, il a perdu connaissance. Qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Comment ? Il a dit : « Ce sont ces gens-là qui jeûnent, al-usat, les désobéissants. » Et il les a taxés de désobéissants. C'est pas qu'ils sont en train d'obéir à Dieu, ils désobéissent à Dieu. Ouais, hadith authentique. Sahih. Pourquoi ? Parce que ils se sont mis dans une situation de danger. Ils n'ont pas le droit. Allah, il t'a pas dit de te suicider pour un verre d'eau. D'accord ? Donc, il faudra bien comprendre que l'objectif, c'est quoi ? C'est de jeûner, c'est d'adorer Dieu. Et ce même Dieu qui t'a demandé de l'adorer en te privant, il t'oblige à ne plus te priver si ta vie est en danger. D'accord ? Ouais, mais attention, il ne faut pas que tu m'appelles à 17h. Qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train de mourir, est-ce que je peux boire ? Ouais ? C'est-à-dire tuer toi-même, hein, maître de ta décision. Pas demander au voisin. C'est toi qui sais si tu es au bout du rouleau ou non. D'accord ? Vous avez compris ? Et on fait quoi avec nos enfants ? Ils jeûnent ou ils ne jeûnent pas ? Vous les laissez jeûner. N'empêchez jamais un gosse de jeûner. Si votre enfant, quel que soit son âge, veut vous ressembler et jeûner, encouragez-le, félicitez-le. Et si à 10h du matin ou à midi ou à 4h de l'après-midi, il veut arrêter de jeûner pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire il ne tient plus, il a trop faim, il a trop soif, il est fatigué, ne l'empêchez pas de rompre son jeûne. S'il ne reste plus qu'une heure ou deux heures, essayez de le maintenir en vie jusque le Maghreb. C'est ce que faisaient les compagnons du prophète, alayhi salam. C'est ce qu'elles disent les femmes, je ne sais plus comment elles s'appellent, elles disent, nous faisions jeûner nos enfants du vivant du prophète, alayhi salam. Donc en Arabie, la chaleur, ouais, on faisait jeûner nos enfants. Et lorsque, vers la fin de la journée, ça devenait dur pour eux, c'est ce qu'elles faisaient, ces croyantes, elles les emmenaient à la mosquée et elles les occupaient à la mosquée. Ouais, devaient avoir une crèche, d'accord, des jeux. Il les détournait, d'accord, il les occupait pour que le temps passe en jouant pour qu'ils finissent leur journée. Comme ça, ils leur apprennent la patience, la dureté. Quelqu'un, c'est vous qui connaissez votre enfant. Ouais. Et vous pouvez le faire. Ouais. Il jeûne, puis si vous voyez qu'il a faim, vous lui donnez la play. D'accord ? Il va finir la journée. Ouais. Parce qu'un jeune, quand il joue, il oublie tout. La faim, la soif, les devoirs, la prière. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est pas une drogue, la play. Il s'oublie, les jeunes. J'ai même appris dernièrement qu'il y a des malades des jeux. C'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent tout le temps, ils n'arrêtent pas, oui. Et quand même. Allez, bon, il y a une bouteille d'eau, il boit, il joue avec une main et un pied, ouais. Il mange, mais il y a quand même des problèmes. Il faut bien qu'ils aillent aux toilettes, non? Il faut comment? S'il met pause, il est cuit. Bah oui, il a perdu, il joue en réseau. Il se retient 24 heures. Oh punaise. Il va aux toilettes? Il joue aux toilettes? Ouais. Il faut qu'il rallonge quand même, hein. Son PC là. Non. Oui. Bravo. Ils mettent des couches. Non, mais c'est pas une blague, hein, c'est réel. Ils mettent des couches. Sérieux. Mais ils jouent en réseau, tu t'imagines? Faut qu'ils gagnent. C'est une question de vie ou de mort. Wa'adou billah. Où va le monde, hein? Vous avez vu? Allah yastar. Bien sûr que ce sont des maladies. Mais c'est évident. Ce sont des maladies. Maladie du siècle. Je crois que c'est l'heure de la prière. Elle est où la belle voix? Elle est où la belle voix qui doit faire l'adhan? Haya, balancez-le, votre affouche. Pourquoi, Mousse? C'est ton frère, il t'aime bien. Hein? Si tu fais l'adhan, on est 200 personnes. Tu auras la récompense de 200 prières. C'est réel, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait l'appel à la prière, toute personne qui priera et qui aura entendu son appel à la prière, la récompense de chaque prière reviendra à celui qui a fait l'appel à la prière sans que rien ne diminue à chaque personne qui a prié. Vous avez compris? C'est-à-dire, nous on va prier, ça sera un maghrib. Et lui, ça lui fera 201 maghrib. C'est beau, c'est pas beau? Il a de la chance. Il a une voix plus belle que la mienne. Sinon, je ne le laisserai pas faire l'adhan. Mais oui, normalement, c'est ça. On doit se bagarrer, on doit se disputer. Laisse-moi faire. Mais comme le prophète, alayhi salam, a dit que celui qui doit faire l'adhan, c'est celui qui a la plus belle des voix, donc tu es condamné à le faire. C'est pas le cas? Celui qui guide, il n'est pas clair, Mskin. Il a plus de récompense que celui qui fait l'adhan? C'est une question que tu poses ou c'est une question? J'ai pas la réponse. Allah yahfadak. Mais c'est une très bonne question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit 33 fois après la prière Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ses péchés tombent comme les feuilles des arbres en automne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait après chaque prière qu'il faisait les trois dernières sourates du Coran. Sauf pour la prière de Subh et du Maghrib, il les récitait trois fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande à Dieu de le préserver de l'enfer sept fois le soir, l'enfer demande à Dieu de le protéger de cette personne. Et celui qui demande à Dieu le paradis sept fois le soir, l'enfer demande à Dieu de mettre en son sein cette personne. Le paradis, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit dix fois le soir cette parole, il a fait dix bonnes actions, il a effacé dix péchés, il montera de 10 degrés au paradis, et c'est comme s'il avait libéré 4 esclaves. Et ses paroles seront pour lui une protection contre le diable jusqu'au lever du soleil. Et s'il les prononce le matin, il a la même récompense et une protection contre le diable jusqu'au coucher du soleil. Et personne n'aura fait autant de bonnes actions que lui, sauf quelqu'un qui les aura prononcées plus que lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir remarqué que sa femme était restée assise sur son lieu de prière le matin jusqu'au lever du soleil, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle lui a dit, prophète, après la prière, je suis resté sur mon lieu de prière à évoquer Dieu jusqu'à l'instant, c'est-à-dire à peu près pendant 2 heures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, moi j'ai dit 4 paroles qui valent plus que tout ce que tu as dit pendant 2 heures. Ouais. L'efficacité, les bonnes paroles qu'il faut, qui ramènent beaucoup. C'est Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, warida nafsihi, wazinata arshihi. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, warida nafsihi, wazinata arshihi. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, warida nafsihi, wazinata arshihi, wa midada kalimatihi. J'ai oublié la quatrième. Wa midada kalimatihi. Vous voyez, ces 4 paroles, elles valent 2 heures de dhikr. Ouais. Donc apprenez-les par cœur. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il est recommandé de dire le soir, après le coucher du soleil ou après l'asr, peu importe, et le matin, après le lever du soleil, jusque la prière de dhuhr. Essayez, Allah ybarak fikoum, de vous procurer un petit recueil d'invocations et chaque semaine, vous en apprenez une. Et vous les répétez sans arrêt. Pour que vous fassiez partie de qui? Des vainqueurs. Parce que la vie est un match de foot. Excusez-moi pour le foot. D'accord? Si vous ne mettez pas des buts, vous perdez, vous êtes éliminé. Si vous mettez des buts et vous n'en encaissez pas, vous allez finir premier. Vrai ou faux? C'est qui l'adversaire? C'est Shaitan et ton nefs. Shaitan, il te fait oublier Dieu. Ton nefs te pousse à la paresse. Combat-les et tu verras que tu vas gagner la partie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, « Sabaqa al-mufaridun » vont gagner la course, le match, les mufaridun. On lui a dit, qui sont-ils? C'est qui cette équipe-là qui va gagner la Coupe du Monde, les Mufaridoun? C'est comme ça qu'il les a appelés, les Mufaridoun. Qui sont-ils? Vous voulez savoir leur drapeau, leur couleur, hein? Vous savez qui sont-ils, les Mufaridoun, qui vont gagner la Coupe du Monde? Adzakiroun Allah katiran wa zakirat. Ceux qui évoquent Dieu énormément et celles qui évoquent Dieu énormément. Allez. Un match vaut à peu près 2 heures. un match, non ? Il dure 2 heures, avec la pub, l'échauffement avant, ouais, les pleurs ou les cris après, de joie. Ça fait un bon petit 2 heures. Je ne vous parle pas des commentaires. Hein. Est-ce que les musulmans aujourd'hui sont prêts à passer 2 heures à évoquer Dieu ? Ils vont trouver de la patience, voire du plaisir, à regarder un match pendant 2 heures, et ils n'auront pas la patience et l'envie et le plaisir d'invoquer Dieu pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est-à-dire 10 fois moins. Non ? 2 heures, ça fait combien ? 120. 6 fois moins. C'est ça ? Vous ne trouvez pas qu'on a un problème ? On a un problème avec le foot. Laquelle vous êtes les meilleurs, alhamdoulilah, puisque vous êtes ici. Non ? Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas devant la télé. À moins que vous avez mis enregistrement. Ah, les traîtres. Non mais au moins c'est intelligent. Ouais. Je préfère des musulmans qui enregistrent et qui viennent à la mosquée et après qui regardent. Les dangereux, ce sont ceux qui regardent en direct, alors qu'ils pourraient très bien regarder en différé. Mais c'est trop de le rater en direct. Tout le plaisir est dans le fait de le regarder en direct, c'est ça ? Wallah, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai divorcé du foot, vous savez quand ? En 1982. Un peu avant quand même, mais en 82, il y avait la Coupe du Monde. Vous en souvenez pas, non ? Vous êtes trop vieux. Ahsant. Très bien. En 1982, alors que les Arabes chantaient la Coupe du Monde, l'armée sioniste envahit le Liban et massacre nos frères musulmans du Liban. Et dans la foulée, il y a eu le fameux massacre des 2 camps palestiniens qui se nomment Sabra et Shatila. Ouais. Ils ont arrêté des gens, ils les ont ligotés, ils les ont fusillés. Par centaines, plus de 1000 personnes ont été lynchées et fusillées. Au vu et au su du monde entier. Mais le monde entier était occupé. La Coupe du Monde, c'est plus important quand même. Une catastrophe. Et encore aujourd'hui, ils ont massacré il n'y a pas longtemps des musulmans sur un bateau. Maintenant, c'est fini. Les gens regardent la Coupe du Monde, ils ont oublié. D'accord ? Donc, Allah ybarak fikoum, je ne suis pas contre le fait de se détendre, de temps en temps, de regarder un match. Mais il ne faut pas que ça devienne une drogue ou quelque chose qui vous détourne de l'essentiel. Ouais ? On fait l'essentiel le plus important, et s'il nous reste un peu de temps et on veut se détendre et s'amuser, c'est pas grave. Dans les limites du halal. Jamais d'overdose de halal. Parce qu'elle tue aussi l'overdose de halal. Oui.
La marine égyptienne, elle laisse passer en fait la flotte US, la flotte israélienne en direction de l'Iran et ils sont en train de se préparer en fait. Donc, Sabilila, je le dis parce que c'est une information importante. Et moi aussi, moi c'est pareil. Hein. Moi je suis. Il y a une chose qui m'énerve, c'est qu'on se moque de moi et qu'on se moque des miens en fait.
Ahsant. Qu'Allah te protège. Allah ybarak fik. Effectivement, on est détourné de l'essentiel. Ouais, on est leurré, on est trompé. Mais vous restez quand même les meilleurs. Puisque vous êtes à la mosquée. Allah yahfadkoum. Mais les meilleurs des meilleurs, ce sont qui ? Ce sont ceux qui nous ont invités à la mosquée. Et ou non ? Sans eux, on ne serait pas là. Ouais. Donc il faut toujours remercier ces personnes-là. Sinon, on ne remercie pas Dieu. Il faut les encourager pour qu'ils tiennent bon et qu'ils continuent. Pour que cette mosquée reste une mosquée vivante. Où il y a des activités pour les enfants, les femmes, les hommes, les musulmans, les non-musulmans. Une mosquée qui apporte la vie, qui est vivante. Donc Allah ybarak fikoum, vous les soutenez avec votre présence, vous les soutenez avec votre participation. Ouais. Il faut des gens pour venir travailler à la mosquée, pour prendre des responsabilités. Ne serait-ce que 2 heures par semaine, 4 heures par semaine. Un match de foot, ça ne coûte rien. Moi, je vais m'occuper de ça. Je vais venir, je vais faire le ménage. Allez, tous les vendredis, je viens, je fais le ménage de la mosquée. Franchement, qu'est-ce que ça coûte ? Je viens, je le fais samedi. Samedi, je travaille pour le matin. À 10h, donnez-moi la clé, je retourne toute la mosquée. J'ai avec ma femme et je nettoie tout. Tout. Et vous faites ça une fois par semaine ou une fois par mois. Vous cherchez quelqu'un pour le faire le week-end suivant, quelqu'un le week-end d'après, quelqu'un le week-end d'après. Et toi, tu le feras une fois tous les mois. Et dans l'année, tu l'auras fait 12 fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas une bonne idée ? C'est pas un truc concret ? Vous allez voir les responsables de la mosquée, puis vous leur dites, je suis prêt à venir faire le ménage de la mosquée. Parce qu'on n'a pas d'âme de ménage, ni d'homme de ménage. Ouais ? Parce qu'on n'a pas les moyens pour payer quelqu'un pour faire le ménage de manière continue. Donc il faut le faire fisabilillah, le ménage. C'est ce que ça veut dire, fisabilillah ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ? Pour le visage de Dieu. Ça veut dire gratuit. C'est-à-dire que tu n'auras rien du tout sur terre. Tu auras tout là-haut. Non, en fait, tu auras beaucoup sur terre. Hein ? Tu auras la miséricorde de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas de chèque. Tu n'auras pas d'euros. Ouais. Si tu en auras des euros, Allah il va te mettre la baraka dans la vie. Ouais. Donc, Allah ibar fikoum, ne soyez pas des spectateurs. La communauté a besoin d'acteurs. Vous êtes jeunes, plein de courage, de vie, de temps, de disponibilité, engagez-vous. Donnez ce que vous pouvez. 2 heures par semaine, 4 heures, ou même pas 2 heures par mois. Je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses quelque chose, que tu ne sois pas toujours sur la touche, le bon de touche. Ouais. À regarder les autres en train de mettre des buts. Vous savez qui c'est qui gagne ? Ben, ce sont ceux qui ont bossé toute la journée. Ce sont eux les vrais gagnants. Oui ou non ? Puisque le prophète a dit, celui qui verse de l'eau dans un verre pour son frère, il a fait une omane, une sadaqa. Combien de verres d'eau on a bu aujourd'hui, de limonade et de thé ? Combien ? On était 200. Minimum, je crois qu'on a tous bu 3 verres. Oui ou non ? C'est-à-dire, ceux qui ont eu la merveilleuse idée d'organiser cette journée, ben ils ont récolté 600 sadaqas chacun. C'est le top ou c'est pas le top ? Il fallait y penser quand même. Hein. C'est un bon coup d'arnaque. Ah oui, ils nous ont eu. Ils ont fait 600, on a fait 0. Non ? Ça, c'est un bon match. 600 sadaqas. Alors, je ne vous parle pas des sandwichs. Je dis la vérité, j'en ai mangé 2. Ils étaient bons d'ailleurs. Alors 200, si on en a mangé chacun 2, j'en ai vu, ils en ont mangé 4. C'est normal, chacun son estomac, subhanallah. Et ce n'est pas un péché d'en manger 4. Hein. C'était buffet ouvert. Non ? Même 5, Allah ibarak. C'est halal, n'ayez crainte. Donc imaginez-vous, on est 200, chacun 2, ça fait 400 sandwichs. Waouh, 400 sadaqa plus 600, ça fait 1000. Et combien de bonbons t'étaient distribués aux enfants ? J'ai vu des gosses, ils avaient des assiettes en plastique, en papier, il y avait dedans minimum 6 à 7 bonbons, sucettes, trucs, machin. S'il n'y avait que 100 gosses, ça fait encore 600. Non, un gosse multiplié par 10. Bah oui. Parce que ça a plus d'impact. Parce que ton gosse qui est venu, qui a passé une journée agréable à la mosquée, ça a plus de hasanat, plus de valeur que toi. Toi, t'es un vieux de la vieille, toi. Je veux dire, au point de vue investissement, c'est plus que... Ouais. Et vous voulez qu'on continue ? Combien de poignées de main ont été échangées ? Hein ? Vous savez combien de sadaqa ? Le prophète a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent, se serrent la main, leur péché tombe comme les feuilles de l'arbre tombe en automne. Si on s'est serré la main, c'est grâce à eux, puisque sans eux, on ne serait pas là. Non ? Combien de feuilles d'arbres ils ont fait tomber aujourd'hui ? C'est des millions. On continue. Attends, j'arrive au barakallahu fik et au salam alek. Il n'y a plus tuant que cela. Vous savez quoi ? Les sourires, ça n'arrête pas de sourire. Non ? Et le prophète a dit, celui qui fait un sourire, c'est une... Il y en a eu combien de sadaqa aujourd'hui ? Et les jazakallahu khairan, les barakallahu fik, les salamu alaikum, les shukran. Yani, ce sont les vainqueurs de cette coupe. Wallah al-Azim. Donc, choisissez votre camp. Prenez votre carte, inscrivez-vous. Ouais. Faites partie de l'équipe qui gagne, c'est-à-dire celle qui travaille fi sabilillah. Comment ? Je donne de mon temps, je donne de mes compétences, de mes capacités. Vas-y, allez, t'as pas le temps, t'as pas de compétences, t'as rien du tout. Si, quand même, t'as bien 20 euros par mois. Tu les as pas, ceux-là ? Celui qui les a pas, il fait signe, on va lui donner. Hein. Parce que c'est pire qu'un érémiste, Hada. Un RSA, comment on dit ? Hérésiste ? Il n'y a pas encore de nom. C'est pas encore un métier. Ça va le devenir bientôt, matrache. Yanné, qu'est-ce que c'est que 20 euros par mois pour cotiser à la mosquée ? C'est rien. C'est même pas un abonnement téléphonique, 29,90 € illimité. C'est ça ? Tu ne sais pas ? T'as pas Internet ? Allah yahfadak. Qu'Allah te protège alors. Ouais. Mais sinon, c'est 20 euros. Un abonnement avec la mosquée, la maison de Dieu. 20 euros par mois. Si la mosquée elle a 400 cotisants à 20 euros, ça fait 8000 euros. C'est ça ? Dites-moi, je ne sais pas trop compter. 400 fois 20, ça fait 8000. On n'a plus besoin de personne pour nettoyer. Si, un chômeur. Il vient, on l'embauche et il nettoie la mosquée. Ouais. On n'a plus besoin. Les 2 heures, tu peux les garder, tes 2 heures. Ouais. On va payer quelqu'un, il va faire le boulot à ta place parce que tu as payé la personne avec tes 20 euros. On a combien de cotisants, Mustapha ? 90 ? Ouais. Imaginez-vous, on se fixe un objectif. Prochain Ramadan, il faut qu'on soit 200. Possible ou pas possible, franchement. Vous savez comment il faut faire ? On cotise tous déjà. Ouais. Je ne sais pas ici, il y en a combien qui ne cotisent pas. Mais admettons qu'il y en ait 20-30 qui ne cotisent pas, ben, ça fait déjà 120, 130. Il nous en manque combien ? 70, 80. C'est simple, on se clone. Vous connaissez le clonage ? Ouais. C'est-à-dire, moi, je m'engage à ramener quelqu'un, un adhérent, un cotisant. Chacun fait ça. Son frère, sa sœur, son demi-frère, sa demi-sœur, son père, sa mère, son voisin, sa voisine, son chat, son chien. Non mais, on est quand même capable de trouver quelqu'un qui a... Il y a personne qui a 20 euros. 2 qui ont 10 euros. C'est trop. 4 qui ont 5 euros. Voilà, t'as trouvé tes 20 euros. Ou toi tout simplement, tu donnes 20 euros... Pendant tout le mois, tu essaies d'économiser 20 euros. Tu te prives de 2 kebabs. Oui, avec boisson, bien sûr.
Ah oui.
Vrai ou faux ? Franchement. Tu te prives de 2 cinémas. Non ? Tu te prives. Tu vas en mourir ? Garantie que tu crèves pas. Wallah, tu manges pas de kebab, pas de cinéma, là, tu crèves pas. Non ? Tu mourras pas. Vrai ou faux ? Dites-moi si je déconne. Hein. Il est tard. À partir d'un certain moment, ça ne fonctionne plus très bien. Si je dis des bêtises, arrêtez-moi. Mais en vérité, ce ne sont pas des bêtises. C'est que beaucoup de musulmans ne se sentent pas concernés par la mosquée. Un Jumu'ah minimum, tu as 200, 250, 300 personnes. On fait le Jumu'ah dans la mosquée et on ne se met pas dans la tête que la mosquée, bah, c'est un lieu pour qu'il soit préservé et maintenu et pour que ça soit vivant et que ça se développe. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Allez, j'ai une solution toute simple. Devenez tous des millionnaires. Ouais. Et vous donnez 0,001% de votre salaire, c'est-à-dire 2000 euros par mois. Affaire classée, oui ou non ? Affaire classée. Donc, Allah ybarak fikoum, bossez, ouais, là où vous êtes, montez, gagnez, marquez des buts. Et le plus beau des buts, c'est quoi ? c'est d'être dans le wagon qui mène au paradis. Prenez votre billet de train. Ouais. Regardez, il y a des gens qui ont pris un mois de congé. Ils ont pris avec eux 4000 euros pour aller en Afrique du Sud pour soutenir l'équipe. Vous le savez ? Regardez, ils font un jihad dans le vide, à nos yeux, oui ou non ? Ouais, c'est un effort dans le vide. En tant que musulman, hein, je pense que c'est dans le vide. Même en tant qu'être humain, c'est de la bêtise, oui ou non ? C'est de la folie. Et nous, on n'est pas capable de faire quoi ? Un dixième de ce qu'ils font, c'est-à-dire 40 euros. C'est ça, 40 euros ? 4 000 euros, un dixième de 4 000, c'est ? Un centième ? Non. Le mec, il vaut 100 fois plus que moi ? Allahu Akbar. L'adorateur du football vaut plus que moi ? Il met 4 000 euros sans le billet d'avion ? Et moi, j'arrive pas à mettre 40 euros à la mosquée, donc il vaut plus que moi, l'enfoiré. Non, mais vous vous rendez compte l'insulte pour nous, musulmans ? Bon, je crois qu'il faut que j'arrête là, parce que on est dans un hammam. Non ? Vous trouvez pas qu'il fait froid ? Il nous faut une clim. Une clim, c'est pas gratuit. Il faut doubler les cotisations. Vous voyez qu'on se mord la queue ? Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Si, alhamdoulilah, on a été dans une bonne auberge aujourd'hui. La mosquée de Sabati. Allah ybarak fikoum. Excusez-moi si je vous ai pris la tête. Hein. Je vais peut-être clôturer, Mustapha. Tu m'autorises ? Tu n'entends plus, tu es fatigué ? Il est mort, Mskin. Il est défoncé. Je voulais dire, on fait la dua, on clôture ? Ouais. Il y a du travail peut-être à l'extérieur ? On fait un petit tour, on ramasse les papiers, les gobelets, on range les chaises et les tables. On ne va pas laisser deux, trois frères le faire. Si on y va tous, oh là, en deux secondes, c'est fait. Vrai ou faux ? L'union fait la force.
Il y a aussi, bismillah, assalamu alaykoum. Il y a aussi le gaspillage. Donc, regardez s'il reste du pain, de la viande. Je pense que ça a été tout juste, alhamdoulilah. Les boissons aussi, je pense que c'était tout juste aussi. Je ne suis pas sûr pour le pain. Ensuite, on a déjà regardé un peu pour le ramadan, hein, comme vous avez pu entendre le frère Hassan. Donc, on va faire un peu comme un Samir, comme l'année dernière. Donc, le premier jour, c'est l'Aïcha, il est à, je ne sais pas si tu l'as dit, Hassan, pour la conférence, c'est 11h moins le quart. Hein, 11h moins le quart pour l'Aïcha. Donc, 11h moins le quart, ça nous donne, vous faites l'Aïcha, il fait 11h10, 11h05. Si on fait une heure de Tarawih, on dure que 2-3 jours. Après, il n'y a plus personne qui vient. Donc on va encore, Inch'Allah, couper, essayer de réduire comme l'année dernière. Et pour les plus courageux, on fera venir le matin. Bon, ça c'est beaucoup les anciens qui ont ce courage parce que bon, ils ne travaillent pas, quoique on est en vacances. Hein. Mais bon, les anciens aussi, ils habitent pas loin. Hein. Ils sont voisins de la mosquée. Ça, et donc on aura donc, Inch'Allah, si tout se concrétise encore une fois, pour une troisième, une quatrième fois, l'honneur d'avoir le frère Hakim, Abdel Hakim. Jaza, il a enseigné, il a une Jaza en Coran, il a étudié en Égypte avec ton fils Hassan, Inch'Allah. Et donc on aura l'honneur de l'avoir encore une fois cette année, si tout se passe bien, si Inch'Allah. Et j'ai dû oublier quelque chose. Non, le reste, ce sera. On fera passer les informations par le système normal, hein, au site internet, l'affichage dans la mosquée, etc. Juste, bah, c'est la clôture des activités. Là, c'est donc les prochaines activités, c'est pour le Ramadan. Inch'Allah, l'imam, pour ceux qui viennent au Jumu'ah le vendredi, donc il a oublié de vous saluer parce qu'il part en vacances. Donc on ne le reverra que, Inch'Allah, au Ramadan. Donc il sera remplacé pendant tout le mois de juillet. Et même le premier vendredi de août. Voilà. Donc il me semble que j'ai tout dit, Hassan. Donc si tu pouvais conclure. Et aussi pour les voisins. Hein, pour les voisins, parce qu'il fait tard. Ils dorment, donc, et puis souvent les anciens, c'est des anciens qui habitent, hein, maintenant c'est des mineurs, ils sont âgés, c'est tous des retraités. Donc essayez de, si vous voulez discuter, restez dans la cour. Et si vous passez le portail, c'est pour rentrer dans votre voiture et rentrer chez vous. Barakallahu fikoum.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
J'ai quand même oublié de dire quelque chose. C'est un peu ce que tu as dit, Hassan, c'est de remercier tous les gens qui nous ont aidés, notamment les sœurs qui ont fait énormément au niveau de la crèche, au niveau des goûters, au niveau de l'agencement et les frères aussi, au niveau de toute la restauration et des enfants. Barakallahu fikoum.